Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce mercredi 29 juillet 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour à tous.
Donc comme à toutes les semaines, avant de plonger dans notre sujet principal, prenons quelques minutes pour faire le point sur les marchés.
Bien, un marché en deux temps cette semaine. En fait, la bourse canadienne performe quand même assez bien. On est en hausse de 1 %. Plusieurs titres là, font des nouveaux sommets. Ça va bien. Les banques vont bien. Par contre, aux États-Unis, moins bien un petit peu. Les titres de semi-conducteurs. Donc, c'est quoi les semi-conducteurs là? C'est les micro-puces comme NVIDIA pour l'intelligence artificielle, les puces de mémoire. Ces titres-là, quand on regarde l'indice des semi-conducteurs depuis un mois, c'est en baisse de 13,4%. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'immenses entreprises, NVIDIA, Micron, qui sont dans ces secteurs-là, qui ont subi des corrections quand même assez importantes. Ce sont principalement là, des titres qui sont inscrits sur le Nasdaq. Donc, le Nasdaq est en baisse de 3,8% cette semaine, 5,2% depuis le début du mois de juillet. Du côté du S&P 500, donc qui est un peu mieux diversifié, un peu moins technologie, là, on est en baisse de 1% depuis le début du mois. Au niveau des taux d'intérêt, ben, légère baisse. Aujourd'hui, on a la Réserve fédérale va se prononcer. On sait que le nouveau gouverneur a été nommé pour baisser les taux. C'est pas du tout la tendance qui s'annonce là. Il y a même, je pense, c'est un des commentateurs économiques qui disait, ben, on va voir s'il va puncher Trump d'en face avec une hausse de taux à la place. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. Plusieurs entreprises importantes vont rapporter les bénéfices dans les prochains jours. Aujourd'hui, on a Microsoft et le Canadien Pacifique au Canada. Demain, Apple, Amazon, Acorn, Mastercard, Brookfield Infrastructure. Donc, vraiment, là, beaucoup de sites que nos clients détiennent qui vont rapporter les résultats. Meta, Facebook, là, donc Meta, ça, on n'en détient pas vraiment, mais c'est quand même un des 4-5 plus grandes entreprises, donc très important. Donc, on va suivre avec attention. Pour l'instant, la tendance qui se dessine, les titres en technologie là, annoncent des résultats financiers exceptionnels, mais en même temps, des dépenses en immobilisation. Puis le marché est un petit peu tanné de voir ces dépenses en immobilisation-là augmenter, de sorte que même une entreprise comme Alphabet, qui a eu des résultats là, exceptionnels la semaine passée, ben, pour la première fois depuis qu'ils sont publics, il y avait un trimestre avec des flux de trésorerie négatifs. Donc, tous les profits qu'ils ont générés, ils les ont réinvestis dans l'immobilisation et un peu plus. Donc ça, le marché est un petit peu inquiet là, de voir cette tendance-là. Ce qu'on a hâte de voir, c'est justement des revenus qui sont plus élevés que les dépenses. C'est comme ça qu'on fait de l'argent dans une entreprise.
Absolument. Puis je pense que les entreprises sont en train de dire, mais la demande est très forte. Donc, exact. On doit subvenir à la demande. Ben, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde au Canada, qu'on soit à 35 ans, à 55 ans ou déjà à la retraite. Une même question revient constamment. Sommes-nous réellement prêts pour la retraite? Puis on se le pose même à la retraite, c'est tellement vrai, là, parce qu'on refait des plans de décaissement même quand les gens sont à la retraite.
Ouais.
Fidélité Canada vient de publier la 20e édition de son rapport sur la retraite, l'une des études les plus suivies au pays, et les conclusions sont fascinantes. Les Canadiens considèrent aujourd'hui la retraite comme beaucoup plus complexe qu'il y a 20 ans. Ils croient avoir besoin davantage d'argent, ils prévoient prendre leur retraite plus tard et plusieurs s'inquiètent de leur capacité à maintenir leur niveau de vie. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ce que nous apprend cette étude et surtout ce que les investisseurs devraient en retenir. Ce que je trouve super le fun de cette étude-là, c'est réellement parce que ça fait 20 ans que Fidélité est en train de ramasser ces données-là et donc ils peuvent faire des comparaisons à il y a 20 ans. Donc, Martin, commençons par la conclusion la plus frappante. Les Canadiens ont-ils l'impression que la retraite est différente d'il y a 20 ans?
Oui, tu sais, absolument. Puis même de façon quand même assez importante, là, il y avait 91 % des pré-retraités qui considèrent que la retraite est aujourd'hui plus complexe. Puis c'est davantage lié au mode de vie, aux besoins financiers puis aux valeurs personnelles qu'il y a 20 ans. Autrement dit, tu sais, il y a 20 ans, c'était quoi la retraite? J'arrête de travailler. Aujourd'hui, la retraite, c'est devenu, c'est comme une deuxième carrière, si on veut. Tu sais, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'occuper. Donc, c'est vraiment devenu là, un projet de vie, la retraite, et non simplement l'arrêt du travail.
Oui, absolument. On le voit dans nos conversations avec nos clients et on pose toujours la question, c'est quoi la retraite pour toi? Donc, pourquoi cette impression de complexité augmente-t-elle autant?
Bien, il y a beaucoup de défis là, qui se sont multipliés. Il y a le coût de la vie qui est plus élevé. Les gens vivent plus longtemps aussi. Puis ça, c'est très important. Là. L'espérance de vie augmente. Donc, ça a un impact aussi sur nos besoins financiers parce qu'on va devoir vivre sur cet argent-là plus longtemps. Beaucoup de régimes de retraite offerts par les employeurs, c'est moins répandu. Là. Tu sais, le bon vieux régime à prestations déterminées, le fonds de pension, là, il y en a moins. Beaucoup plus maintenant, c'est des cotisations déterminées ou même des réels collectifs quand c'est pas juste arrange-toi avec tes problèmes. Tu sais. Donc ça, c'est les nouveaux régimes de retraite. Et plusieurs retraités, bon, ça, c'est vraiment une des différences marquées. Là. Les retraités, maintenant, on parle de génération sandwich, là, qui soutiennent financièrement à la fois leurs enfants adultes, des fois même les petits-enfants, puis aussi leurs parents âgés. Donc, ça met beaucoup de pression sur la retraite quand il faut financer non seulement notre propre niveau de vie pendant qu'on n'a plus de revenus, mais tout ce monde-là autour. Donc, la retraite, c'est plus juste là, un événement, là, c'est maintenant un parcours. Là. C'est une retraite qui est toujours en évolution.
Absolument. Donc, parlons d'argent. C'est souvent la première question que les gens nous posent et on se le fait poser beaucoup. Combien faut-il pour vivre une retraite confortable?
Donc, Fidélité a viré la question de bord, puis on dit combien vous pensez que ça vous prend pour vivre une retraite confortable? Ben donc, il y a 20 ans, la réponse des Canadiens, c'était 52 800 pour le ménage. Donc, ménage, là, monsieur, madame ensemble, ou tu sais, le couple ensemble. C'est plus juste monsieur, madame, un couple maintenant, c'est juste le couple ensemble.
Ouais.
Aujourd'hui, bon, si je prends 52 800 indexé à l'inflation, l'équivalent aujourd'hui, c'est 81 000. Donc, ça, si les besoins n'avaient pas changé, les Canadiens auraient dû répondre 81 000. Par contre, aujourd'hui, ils disent 93 300. Ah, donc, c'est pas seulement que l'inflation a eu un effet, mais aussi notre désir d'augmenter notre niveau de vie a un effet. Puis ça, ben, ça coûte de l'argent. Donc, c'est vraiment là, un chiffre là, qui est plus important que l'inflation, cette augmentation là, des désirs.
Donc, ce n'est pas seulement le coût de la vie qui augmente.
C'est les attentes. Donc, tu sais, les gens voyagent plus de loisirs. Bon, il y a de la famille aussi, hein, on l'a mentionné, on aide les enfants, on aide les parents, on vieillit à domicile, donc il faut peut-être adapter la maison, on veut avoir accès à des soins de santé de qualité. Donc, tu sais, il y a 20 ans, là, la médecine au privé, ça n'existait pas, tu sais, on faisait la file. Maintenant, ben, ah, c'est trop long, je vais faire mon genou au privé, ça coûte 20 000, tu sais. La définition d'une retraite confortable, c'est beaucoup plus ambitieux, là. Tu sais, on parlait du voisin gonflable, puis là, on a la retraite gonflable maintenant aussi.
Oui, oui, définitivement, je pense que nos besoins ont augmenté. On veut avoir plus d'aventures à la retraite. Et combien dépendent les Canadiens pensent-ils devoir accumuler? Ça, c'est intéressant comme réponse parce que ça le fait poser aussi comme question.
Exact. Donc, il y a 20 ans, on parlait là, à cette question-là, les Canadiens répondaient, là, bon, moi, avec environ 600 000, là, je devrais être correct. Aujourd'hui, la réponse, c'est 1 020 000. Donc, là, arrondissons 1 million de dollars. On revient à notre chiffre de tout à l'heure, là, le 91 000. T'sais, est-ce que 1 million, c'est assez? On verra. Là, mais c'est quand même quasiment le double de ce que les Canadiens disait devoir épargner il y a 20 ans, c'est encore là plus que l'effet de l'inflation là, là-dessus.
Un million de dollars, ça peut sembler quand même énorme pour plusieurs personnes, même de nos jours.
Ben, d'où il vient le million? Puis tu sais, pourquoi un million? Donc, on recule en arrière, là. On veut 93 000 de revenus total pour notre retraite brute, là, dans le cas de l'étude ici, des revenus bruts. Les RRQ, PSV vont couvrir à peu près 18 000 chaque, là, donc 36 000. Donc, grosso modo, il faut que je comble 57 000 $ de mes dépenses avec l'argent que je vais accumuler. Le reste sera comblé par les pensions gouvernementales. Donc, même avec un taux de retrait prudent, là, donc, généralement, là, en planification financière, on parle d'un taux de décaissement de 4 %. Si je décaisse 4 % de mon argent, je devrais être correct. Ça, c'est vraiment une règle de pouce. Encore là, c'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Ben, avec 4%, ça prend pas 1 million, ça prend 1,4 million. Fait qu'on est encore short. Si je prévois là, un taux de retraite 5%, donc là, plus je décaisse, plus j'ai besoin d'un rendement élevé, plus je dois tolérer du risque, plus il y a de chances que ça ne marche pas mon affaire aussi. Là. Donc là, on s'approche du million, mais ça implique quand même un certain niveau de risque qui est un peu plus élevé.
Donc, les Canadiens sous-estiment probablement encore leurs besoins réels. Nous, dans notre métier, on voit vraiment les deux choses. On voit des gens qui sous-estiment, on voit des gens qui surestiment aussi, qui disent « Ah non, je ne pourrais jamais prendre ma retraite », puis on a une super belle surprise quand on fait le plan.
Ouais.
Un autre résultat intéressant concerne l'âge de la retraite. Puis je pense que ça ne va pas tant étonner les gens. Les Canadiens repoussent-ils leur départ?
Ben, c'est clair, là. Il y a 20 ans, en 2005, la retraite était à 61 ans. Maintenant, c'est plus que 65 ans. Donc, il y a seulement là, 60 % des pré-retraités aujourd'hui disent « Ah, je prendrai pas ma retraite avant 65 ans. » Puis plus surprenant encore, là, il y a 20 ans, la réponse à cette question-là, c'était zéro. Aujourd'hui, est-ce que 16 % des gens disent qu'ils ne vont jamais prendre leur retraite? Ils vont juste continuer à travailler pour toujours. C'est pas mal en soi. Hein, moi, je me souviens d'un documentaire des Blue Zones. Là, pis les gens qui vivent très longtemps, ils ont tendance à comme travailler aussi très longtemps.
Ben, je regarde mon propre père. Il a continué à faire la science jusqu'à l'âge de 84 ans. Il était bien heureux. On a plusieurs clients qui ont fait ça. Puis ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que c'est par nécessité financière, par contre, que les gens font ça?
Tu sais, des fois, là, ouais. mais pas uniquement. Là, le travail ne fait pas juste apporter de l'argent aussi. Hein. Il apporte aussi un sentiment d'utilité, des relations sociales, une stimulation intellectuelle. Tu sais, il y a 24 heures dans une journée, on endort 7-8, ben il faut faire quelque chose pendant les 16 heures qui restent. Ben, tant qu'à rien faire, tu te mets de travailler des fois. Donc, il y en a qui ont cette mentalité-là aussi, puis c'est tout à fait correct. Il y a aussi l'événement du télétravail qui a changé beaucoup la donne, là, tu sais. Donc, un des désagréments du travail, des fois, c'était le trafic, la vie, tu sais, toute la complexité. Puis là, oh, tu sais, je peux rester à la maison, travailler 2-3 jours semaine de la maison, peut-être ça allonge des carrières beaucoup plus facilement.
100 %. Ça, on l'entend aussi souvent des clients. Ben, je vais faire un peu de consultation. Ça ne va pas être juste la retraite. Je vais prendre certains mandats. Puis c'est des mandats qu'ils peuvent faire à la maison. Donc, de quoi les Canadiens sont-ils le plus préoccupés?
Ben, je vais te surprendre quelqu'un. Là, on parle de l'inflation.
Ouais.
Première préoccupation, là, 80 % des répondants affirment qu'elle a un impact négatif sur leur retraite puis sur la préparation de la retraite. Je vous ramène le chiffre, là, tu sais, il n'y a pas que l'inflation pourtant parce que les besoins en ligne avec les revenus en ligne avec l'inflation, on devait avoir besoin de juste de 81 000 puis on dit 93. Là, fait qu'il y a aussi nos propres attentes qui sont peut-être responsables en partie de ça. Fait que tu sais, les gens se préoccupent aussi beaucoup de la volatilité des marchés. Bon, récession éventuelle, là, tu sais, dans notre métier, là, moi, je vous promets qu'on va avoir une récession, peut-être deux, peut-être trois avant la fin de votre parcours d'investisseur. Ça, c'est correct, là. C'est normal de le craindre. Il faut pas le craindre. Ça fait partie du processus. Mais un des items nouveaux, c'est les tensions géopolitiques. Là, présentement, c'est très présent dans les inquiétudes des pré-retraités puis des retraités. Les taux d'intérêt, puis en même temps, ben, le risque de vivre plus longtemps que prévu. Là, ça aussi, l'espérance de vie qui augmente, c'est aussi perçu comme un risque.
Puis ça on parle du fameux risque de longévité, puis on a souvent cette discussion, et moi, je suis souvent surprise parce qu'il y a certains clients qui sont comme « Ah, je ne vivrai pas jusqu'à cet âge-là. Mes parents n'ont pas vécu jusqu'à cet âge-là. C'est ça, je vais mourir. Je ne veux pas vivre vieux comme ça. » Qu'est-ce que t'en dis?
Ben, c'est sûr que les gens ont cette fausse impression de l'espérance de vie. Il y a quelques semaines, on avait fait un podcast, on a touché à ça, là. Tu sais, à la naissance, l'espérance de vie d'une femme, c'est à peu près 82 ans, un homme autour de 81. Par contre, si j'ai 60, 70 ans, je suis en bonne santé, mon espérance de vie, là, j'ai déjà 50 % des chances de me rendre autour de 88. Mais 50 % là, mettons, je dis « OK, parfait, je budgète mes affaires, puis à 88 ans, j'ai plus une scène. » ben j'ai 50 % des chances d'être encore vivant. Là, j'ai un méchant problème là, si je suis encore vivant et j'ai plus d'argent. Donc, l'Institut de planification financière recommande d'utiliser l'espérance de vie à 25 %. Donc, pour la majorité des retraités, là, un homme, une femme de 60, 65 ans, c'est quoi l'espérance de vie à 25 %? C'est 95 ans, 96 ans. Donc, puis c'est 25 %, c'est une chance sur quatre là, d'être encore vivant. C'est quand même un pourcentage relativement élevé, mais il faut quand même tracer la ligne quelque part là, au niveau de la gestion de risque de longévité.
Et un résultat m'a particulièrement surprise, le soutien financier aux enfants adultes.
Ça, c'est probablement le changement social le plus important qu'on a observé dans l'étude. Là. C'est deux tiers des retraités qui disent avoir aidé financièrement leur enfant adulte. On voyait pas bien ça avant. Là. Ça, c'est assez nouveau. Ça peut être pour les dépenses quotidiennes, un achat important, comme par exemple une maison, l'épargne retraite même. C'est vraiment, là, il y a beaucoup d'items là, qui fait que les parents aident leurs enfants adultes.
C'est comme une passation, dans le fond, de leur succession, de leur vivant. Puis ça ne me surprend pas aussi parce que les prix des maisons demeurent vraiment un véritable défi pour plusieurs familles, pour plusieurs jeunes familles.
Ben exact. Donc, on parle d'abordabilité puis d'accès à la propriété. Donc, tu sais, aujourd'hui, le patrimoine familial, il ne sert pas juste aux retraités, là, mais vraiment à soutenir plusieurs générations. Ça doit être intégré là, dans la planification financière. Il faut penser que peut-être je vais devoir aider mes parents ou mes enfants à un moment donné, puis avoir une certaine marge de manœuvre dans un plan financier pour cette éventualité-là.
Bon, maintenant que tu amènes le sujet, parlons un peu de une thématique que tu affectionnes beaucoup, la planification.
Effectivement, puis les résultats sont assez remarquables. Les personnes qui possèdent un plan financier écrit, là, donc pas juste dans ma tête que je pense que je suis correct, là, j'ai pris la peine là, de rédiger un plan financier avec un professionnel. Bien, chez les pré-retraités, 81 % de ceux qui ont un plan, ils se sentent prêts financièrement, comparativement à seulement 39 % de ceux qui n'en ont pas. Donc, il y a quand même une certaine, c'est le double, là, c'est beaucoup. Donc, tu sais, c'est assez fascinant que les bénéfices dépassent la finance. Tu sais, le plan en soi, c'est pas juste de préparer financièrement, mais c'est d'être prêt émotionnellement, socialement, physiquement. Donc, on parle des quatre piliers du bien-être à la retraite, là. Donc, les finances, les émotions, le social et le physique. Donc, le plan financier, ça semble renforcer tout ça, là,
puis on dit beaucoup aux clients, le plan financier nous donne de l'équilibre. Donc, pouvoir avoir du plaisir à la retraite, mais aussi être sûr qu'on a assez d'argent pour nos vieux jours. L'étude souligne aussi naturellement, on prêche pour notre paroisse, le rôle des conseillers.
Puis malgré toutes les applications, les réseaux sociaux, le ChatGPT, bon, les conseillers demeurent la source numéro un pour les Canadiens quand il est question d'investissement. Donc, l'étude montre également que les retraités là, qui sont accompagnés sont plus susceptibles de voir leur épargne continuer de croître tout en générant les revenus qu'ils ont besoin. Puis l'accompagnement, c'est pas juste de choisir des placements. Tu sais, cet item-là, moi, je dirais là, dans ma carrière, c'est l'item qui a perdu en importance, si on veut. C'est vraiment plus l'accompagnement en planification financière et la gestion de patrimoine dans son ensemble qui est beaucoup plus importante de ce côté-là. Donc, ce qu'on veut, c'est aider les gens à garder le cap. Tout le monde est bon quand les marchés vont bien. C'est quand ça brasse un petit peu plus que, tu sais, quand on est en bateau puis la l'orage se lève puis la mer est trouble. On aimerait bien un capitaine expérimenté à la barre, là. Tu sais, on enlève le pilote automatique puis on veut que quelqu'un soit les deux mains sur le gouvernail.
Super belle comparaison. Donc, Martin, quelles sont les grandes leçons pour les investisseurs aujourd'hui?
Bon, la retraite, c'est plus complexe qu'il y a 20 ans. La plupart des Canadiens croient qu'ils ont besoin d'environ 1 million de dollars pour vivre confortablement à la retraite. Puis, selon la moyenne, c'est pas tout à fait assez. Plusieurs sous-estiment encore leurs besoins réels. L'âge de la retraite augmente, parce que l'espérance de vie augmente aussi en partie. Puis soutenir les enfants, les petits-enfants, ça devient une réalité financière là, qui est quand même importante. Puis les personnes qui ont un plan financier écrit se sentent mieux préparées et sont mieux préparées. Donc, travailler avec un conseiller, ça demeure une des meilleures façons de naviguer dans cette complexité.
Et surtout, cette étude nous rappelle que la retraite n'est pas uniquement une question d'argent. C'est aussi une question des projets, de la liberté, de santé, de la famille et de la qualité de vie. Et nous, on est vraiment là pour vous accompagner dans toutes ces sphères-là. Merci beaucoup, Martin, et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous voulez une copie de cette étude-là, on peut vous l'envoyer. Et si vous avez des questions concernant votre retraite, votre portefeuille, votre plan successoral ou votre planification financière, notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, sommes toujours là pour vous accompagner. À bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.